géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la crise en Iran et à ses répercussions sur la scène internationale. L'inquiétude est là, ouvertement exprimée par certains, volontairement tue par d'autres, de crainte sans doute que le mouvement ne fasse des émules. L'évolution de la situation en Iran est suivie de près. Quelle politique privilégier alors que les Américains réévaluent à la baisse le danger nucléaire iranien? Pour répondre à cette question et plusieurs autres, nos invités, Azadeh Khian, professeur de sociologie politique à l'université Paris-Diderot, Paris 7 et chercheur au CNRS, auteur de La République islamique d'Iran aux éditions Michalon. Bonjour Azadeh Khian.
Bonjour.
Ardavan Amir Aslani, avocat et auteur de Iran, le retour de la Perse aux éditions Jean Picolec. Bonjour Ardavan Amir Aslani.
Bonjour madame.
Et François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique et auteur de Iran, l'état de crise, apparaître aux éditions Cartala, ligne de repère, très prochainement. Bonjour François Géré.
Bonjour.
La tension qui prévaut aujourd'hui fait suite aux élections de juin dernier en Iran, qui ont donc vu la réélection du président sortant, Ahmadinejad. Une élection entachée de fraude. La jeunesse iranienne est descendue dans la rue. Depuis, le mouvement n'a cessé de s'amplifier. La fin de l'année, les fêtes de l'Achoura ont été marquées par une répression violente. 5000 arrestations en 6 mois, plusieurs dizaines de morts, des emprisonnements, des procès arbitraires. Comment voyez-vous chacun la situation? Qui veut commencer, Azadeh Khian?
Écoutez, je pense que le mouvement actuel, il faut le dire, c'est un mouvement autochtone très très bien ancré dans les réalités de la société iranienne et dans des contradictions inhérentes entre les changements sociaux, culturels, démographiques, même politiques qui ont eu lieu depuis la révolution et les institutions et un pouvoir archaïque. Je pense que l'origine des tensions doit être trouvée dans ces contradictions-là, à mon sens, mais en même temps, il ne faut pas oublier la complexité de ce même régime, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une partie de la jeunesse iranienne qui est dans la rue, il s'agit des pans entiers de la population, y compris une partie de ce même régime. On oublie souvent que M. Mousavi, Karoubi et Khatami, qui sont les trois principaux dirigeants de ce mouvement en Iran, sont l'ancien Premier ministre, l'ancien président et l'ancien président du Parlement. Donc ce sont des hommes du sérail. Et donc il s'agit là d'une cristallisation des conflits qui traversaient le régime depuis les 30 dernières années. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point, à mon sens, de non-retour. Ça veut dire que ces contradictions doivent être résolues d'une manière ou d'une autre. La société iranienne, de plus en plus, revendique la démocratisation du système. Je pense que la majorité de ceux qui manifestent dans la rue ne souhaitent pas le renversement du régime et ne revendiquent même pas ce renversement, mais la démocratisation de ce régime et ceux qui revendiquent également les trois principaux dirigeants que je viens de citer, qui effectivement œuvrent pour aller dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que la société iranienne est à 70% urbaine et même pour ceux qui, la population qui reste rurale, il y a très peu d'écart entre les villes et les campagnes. Les villageois ont presque tous également l'accès à la télévision, à la radio. L'alphabétisation est presque aussi importante que dans les villes, c'est-à-dire pratiquement tous les jeunes iraniens, villageois ou urbains sont alphabétisés. Ça veut dire 85% de la population iranienne qui est alphabétisée, tout âge confondu. C'est la raison pour laquelle ce qu'on constate, c'est que parmi les protestataires aussi, même si ça a commencé par les classes moyennes des grandes villes, commencer par Téhéran. Aujourd'hui, on constate différentes catégories sociales et différentes générations qui prennent part dans ce mouvement. Le mécontentement est très très important et c'est la raison pour laquelle ça a aussi influé sur le pouvoir, de sorte qu'aujourd'hui il y a des marchandages en cours au sein du pouvoir afin de trouver une solution. En cela, je pense que les 5 propositions récentes de M. Mousavi vont jouer un rôle prépondérant dans une solution non violente à cette crise très très importante, c'est-à-dire la plus importante que traverse l'ensemble du régime et de la société iranienne également.
Beaucoup de choses ont été dites par Azadeh Khian. Ardavan Amir Aslani, un commentaire?
Je crois en fait que aujourd'hui l'Iran traverse une crise qui est double. Une crise au niveau du sommet de l'État. Les chefs de l'opposition, sur les 30 années de la République islamique, ont été au sommet du pouvoir, 26 sur 30. C'est une division radicale au sommet, mais c'est également une division radicale au niveau de la population iranienne. Une chose que on entend souvent et qui, à mon sens, ne traduit pas la réalité parfaite, c'est que le régime est dépourvu de base populaire. On l'a vu dernièrement, à l'issue de manifestations qui ont secoué le pays, le régime a appelé à ce que la population pro-régime manifeste dans les rues. Ici, ils sont arrivés par centaines de milliers. C'est vrai qu'on a frété les bus, c'est vrai qu'on a donné la journée de congé aux fonctionnaires, mais on ne peut pas créer un tel mouvement de masse tout simplement en faisant appel à une population clientéliste. Une coupure au niveau de la population, les traditionnalistes, ceux qui sont profondément attachés aux valeurs de la religion, et d'autres, plus éduqués, plus ouverts sur le monde, qui ont un accès à l'information plus vaste, qui aspirent à une autre vie. Une vie qui oriente davantage leur mode d'existence vers la laïcité, vers une façon de vivre séculière, vers un échange et une réintégration de l'Iran à l'échelle internationale, et d'autres qui sont pour le repli sur soi à l'intérieur du pays. Cette division populaire est doublée par un combat pour le pouvoir au sommet entre cette nouvelle tendance qui arrive au pouvoir, qui est une tendance générationnelle, personnifiée par M. Ahmadinejad. Ce sont des gens qui n'ont pas fait la révolution, mais qui ont participé à la révolution et qui se trouvent aujourd'hui opposés à un clergé, toutes tendances confondues, très âgé et qui était le père de la révolution. C'est un peu les fils, si vous voulez, qui veulent prendre le pouvoir. Et qui, aujourd'hui, crée un double conflit, savoir un conflit, à mon sens, qui oppose le fait religieux personnifié par le clergé, et également le fait politique séculier, laïque, contrairement à ce qu'on pensait, personnifié par Ahmadinejad.
Rupture entre religieux et politique, est-ce que ça veut dire que la révolution a vécu, François Géré ?
La révolution islamique de Roménie a vécu. Ça, je crois que c'est le grand événement dans l'histoire de l'Iran. C'est que l'Iran a vécu sur la lancée de la grande révolution de 79. Et ce que nous avons vu 30 ans plus tard, c'est la fin. Les élections présidentielles ont été en quelque sorte le facteur déclenchant, l'étincelle qui a révélé le fait que oui, 30 ans avaient passé et que, comme le disait Amir Aslani, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, une génération qui connaît paradoxalement moins le monde que la génération d'avant. Bon, Ahmadinejad, il est représentatif du fait qu'il appartient à un monde laïque. C'est un ingénieur, il est soutenu par les gardiens de la révolution, les Pasdaran, qui sont eux-mêmes à majorité de formation d'ingénieurs, et ce sont des gens qui ont très 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 peu voyagé en dehors des frontières de l'Iran, qui n'ont pas la connaissance du monde occidental qu'avait Khomeini.
Parce qu'un pays très isolé depuis 30 ans.
Car Rafsanjani, par exemple, Rafsanjani est un homme qui connaît bien les États-Unis, la Grande-Bretagne ou combien, etc. Ces gens-là ont très peu voyagé, ont une vision quand même très irano-centrée et une périphérie, finalement, qui touche aux frontières. Donc, eux, ils entrent en contradiction avec la génération d'avant, mais qui elle-même n'est pas unifiée. Un des enjeux aujourd'hui dans la lutte des pouvoirs, c'est effectivement de savoir si M. Khamenei, le guide suprême, peut encore prétendre être au-dessus des factions, au-dessus des partis, et avoir ce rôle, je dirais, quasi sacré que lui donne la constitution iranienne.
Rôle d'arbitre, en quelque sorte, François
Géré. Oui,
Giré,
rôle mais d'arbitre, sur lequel... mais un arbitre qui est là au nom de Dieu, il ne faut quand même pas l'oublier.
Mais là-dessus, ce rôle-là, il est passé derrière lui, je veux dire, il a pris position.
Effectivement pris position pour Ahmadinejad dans des conditions qui ont effectivement heurté, choqué, qui d'une certaine façon l'ont fait descendre de sa position suprême et qu'ils l'ont mis dans l'arène politique avec en face de lui les vieux rivaux comme Rafsanjani. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir, dans cette crise profonde de la société, cette crise de génération, cette crise sociale, comment ça se répercute sur les institutions en place.
Alors, on évoque souvent dans cette crise actuelle une comparaison. J'aimerais qu'on précise un petit peu les points sur lesquels il est possible de la faire, cette comparaison, avec ce qui s'est passé il y a 30 ans à Zadekian.
Avant, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit, parce que je ne suis absolument pas d'accord de considérer Ahmadinejad comme un laïque sans pratiquement aucun lien avec le clergé. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, ça a été dit, Ahmadinejad a été fortement soutenu par le guide de la révolution, à la fois à l'issue de l'élection présidentielle de 2005 et notamment cette fois-ci. Et c'est la raison pour laquelle les résultats frauduleux de cette élection ont fait que le guide également a perdu son contrôle et son autorité, en tout cas aux yeux des pans entiers de la population qui protestent ces résultats, puisque ça a été soutenu par le guide. Il ne faut pas oublier non plus qu'Ahmadinejad est soutenu, est très soutenu par Mesbah Yazdi, un ayatollah ultra-conservateur qui est un membre très actif de l'association Hojatiye, qui est une association absolument intéressante à étudier d'ailleurs, très anti-Bahaï, qui joue un rôle prépondérant dans la répression justement des minorités, notamment religieuses en Iran actuellement. Ahmadinejad est très différent, il est vrai, des autres dans la mesure où il n'a même pas fait la guerre. Donc si vous regardez parmi les personnes de sa génération, notamment M. Ghalibov, actuel maire de Téhéran, lui était un général de Pastaran, mais lui il a fait la guerre.
Vous parlez de la guerre Iran-Irak, des années 80.
Donc en tant que Pastaran, Ghalibov peut prétendre par exemple à une certaine légitimité, tandis qu'Ahmadinejad n'a même pas fait la guerre. Il était en train de mater dans le sang les Kurdes iraniens, alors que les autres Pastaran étaient sur le front de la guerre Iran-Irak. Et les gens qui sont autour de lui, au sein des Pastaran, sont effectivement souvent des gens comme lui, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas réellement fait la guerre et qui bénéficient de la manne pétrolière depuis en tout cas 2005. Il ne faut pas oublier que Khatem al-Anbiya, l'organisation des Pastaran, l'organisation financière et économique des Pastaran, a le monopole des gros projets à la fois dans les champs gaziers pétroliers, dans tout ce qui est gazoduc, dans tout ce qui est barrage, dans tout ce qui est autoroute, et ce sont aujourd'hui des proches d'Ahmadinejad qui en bénéficient. Donc c'est une mafia qui a effectivement remplacé l'autre mafia qui était au pouvoir avant. Donc c'est la raison pour laquelle, même si Ahmadinejad est plus jeune, il est vrai, que Rafsanjani, mais son pouvoir est autant contesté. Bon, maintenant, pour faire des comparaisons avec la révolution, je dirais que pour moi, il y a énormément de ressemblances, mais énormément de différences, ne serait-ce que les sociétés qui sont aujourd'hui très très différentes. Mais en même temps, une chose qui est à mon sens commune avec la révolution, c'est que les gens qui sont descendus dans la rue il y a 30 ans, c'était parce qu'ils n'avaient plus de dignité, c'est-à-dire que le régime du Shah avait privé les Iraniens de leur dignité. Et aujourd'hui, en juin 2009, ce que j'ai vu, c'est également ça, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu des fraudes, que le guide a soutenu les fraudes, que Ahmadinejad surtout a appelé les contestataires les superflus, les poussières, et c'est là où des millions d'Iraniens, malgré la répression, sont descendus dans la rue pour défendre leur dignité. C'est très important, cette ressemblance entre les deux. Néanmoins, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens revendiquent la démocratie, ont une expérience de l'islam politique pendant les 30 dernières années et savent très bien que l'islam politique n'arrive pas à répondre aux revendications de cette population, et donc ces revendications n'avaient pas la même nature ou n'existaient tout simplement pas il y a 30 ans. Donc il y a énormément de différences entre les deux. Il ne faut pas oublier l'importance aussi des moyens de communication modernes. 25 millions, selon les chiffres officiels du gouvernement iranien, 25 millions d'Iraniens aujourd'hui ont accès à Internet, ont un téléphone portable, ce qui fait qu'on voit tous les Iraniens sont devenus des journalistes, ils filment avec leur téléphone portable. C'est notre seul aussi moyen de savoir ce qui se passe en Iran. Il ne faut pas oublier que les journalistes étrangers n'ont pas accès à l'Iran. Et en même temps, énormément d'informations qui circulent par Internet.
Alors, d'avant, Amir Aslani, vous êtes d'accord avec les éléments de non-comparaison avec ce qui s'est passé il y a 30 ans aujourd'hui en Iran ?
Je suis surtout d'accord avec ce qui vient d'être dit par le professeur Géré. 79, si vous voulez, par rapport à aujourd'hui, il y a des similitudes incontestablement. Mais je dirais que ces similitudes-là peuvent exister dans tous les pays où il y a un conflit social. C'est pas parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue qui manifestent contre un régime que ça fait la révolution iranienne 79. 79, c'était un peuple dans sa totalité qui s'opposait à un régime totalitaire, militaire, qui aux yeux du peuple iranien, c'était un régime à la solde des Américains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des manifestations dans la rue, il y a une division dans le pays, mais ce n'est pas 79, parce que nous n'avons pas l'ensemble des Iraniens qui sont cristallisés contre un régime. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, et ça a été rappelé par François Géré, c'est ce côté laïque qui est en train d'arriver. Nous sommes dans une république islamique, donc c'est incontestable que vous avez des ayatollahs, des hommes de clergé qui sont un peu présents partout, et que vous ne pouvez pas faire une pénétration dans la vie politique si vous n'êtes pas soutenu par un ayatollah. Mais ce qu'il faut regarder, et à mon sens, les les signes ne sont pas trompeurs. Quand Ahmadinejad a été élu, il a voulu choisir son premier vice-président, son beau-frère, qui est un homme assez étonnant, qui milite contre le foulard, qui considère que le peuple iranien n'a rien d'hostile contre le peuple israélien, et qui sont simplement contre le sionisme. Il a voulu le nommer premier vice-président. Le guide suprême, qui, ça a été dit, personnifie la volonté divine en Iran, personnifie l'autorité absolue, supraconstitutionnelle en Iran, a dit « je n'en veux pas ». Ahmadinejad a quand même maintenu la candidature de son beau-frère. Le guide a écrit, il n'a pas bougé. Il a fallu que le courrier du guide soit lu par un ayatollah réactionnaire à l'occasion de la semaine de prière de vendredi, qui est une institution en Iran, pour que non pas Ahmadinejad démette son candidat de ses fonctions, mais que le candidat lui-même retire sa candidature pour se voir nommer le lendemain chef de son cabinet, qui est un poste particulièrement important. Ahmadinejad n'est pas un mollah. Ceux qui l'entourent ne sont pas des membres du clergé. On est dans une république islamique, donc le feu religieux est plus ou moins présent à peu près partout. Mais il personnifie un changement radical avec la dimension purement théologique et théocratique du régime par l'irruption du fait séculier en Iran. Et ce que l'on constate en fait, c'est qu'on va avoir dans un premier temps le clergé qui va être battu en brèche, toute tendance confondue. On en voit bien, Rafsanjani est un mollah, il est contre Ahmadinejad. Le guide n'est pas très à l'aise. Beaucoup de grands ayatollahs ne peuvent pas le supporter. Il y a un conflit qui oppose aujourd'hui cette nouvelle irruption militaro-économico-armée que sont les pastarans, les gardiens de la révolution personnifiés par Ahmadinejad contre le pouvoir de clergé en place. C'est fondamental et c'est le grand changement que l'on vient de constater dans le régime aujourd'hui à travers les manifestations, à travers la prise de participation par les uns et les autres. Et ça a été rappelé par François.
Pour terminer cette première partie sur l'Iran, quels sont les scénario possible sur ce qui va se passer en Iran. François Géré.
D'abord, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les manifestations sont parfois la partie, je dirais, visible d'un iceberg. Il se passe en Iran, à l'heure actuelle, énormément de choses. Il n'y a pas de jour sans qu'il y ait des échanges de lettres entre les différentes responsables, des différents centres de pouvoir, des différentes factions, etc., pour dire au guide suprême, bon, bah, il faut passer, finalement, un accord avec Mousavi. Mousavi disant, moi, je suis d'accord pour ne pas contester le résultat des élections, sauf si, bien entendu, on arrive à un nouveau gouvernement, etc., etc. Et ça, ça joue un rôle permanent et ça ne se voit pas, évidemment, ça s'entend de temps à autre. Alors, on a, à travers cela, l'idée d'un premier scénario. C'est le scénario, je dirais, de récupération finale, où finalement on se met d'accord pour garder, bien entendu, la constitution islamique qui reste un petit peu, entre guillemets, la vache sacrée, parce que c'est Khomeini qui l'a fait. Et regardez, parmi les manifestants, vous avez des gens qui revendiquent l'héritage de Khomeini. C'est très curieux. Or, on peut, sur cette base-là, en modifiant les rapports de force, en modifiant aussi les intérêts financiers, parce que personne dans cette situation n'est totalement désintéressé, je vous prie de le croire. Donc, on revient à un équilibre, on redéfinit les bénéfices et les privilèges des uns et des autres, et on retrouve la situation de consensus. Ou bien on n'y parvient pas, et alors à ce moment-là, il faudra qu'une faction se décide à employer la force pour détruire l'autre. Et détruire l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement détruire les manifestants, le mouvement libéral, etc. Ça veut dire détruire son adversaire au sein même du pouvoir. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des gens aujourd'hui qui considèrent qu'il est temps de liquider M. Rafsanjani. Et ce n'est pas un vain mot.
Géopolitique, le débat consacré à l'Iran. Nous retrouvons nos invités Azadeh Kian, François Géré et Ardavan Amir Aslani dans quelques instants. A tout de suite.